Vous écoutez, on lit pour vous.
La lutte écologique contre les moustiques, mythe ou réalité? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 19 juillet 2024 dans la presse. D'un simple zzz aigu, ils peuvent gâcher n'importe quelle soirée d'été. Mais existe-t-il un moyen efficace et écologique de lutter contre les moustiques? On voit toutes sortes de produits dans les commerces contre les moustiques. Comment s'y retrouver? Demande Véronique. Les moustiques sont de redoutables prédateurs. Ils ont développé au cours de l'évolution toute une panoplie d'outils pour nous traquer. Ils utilisent leur odorat, leur vue, la chaleur que l'on dégage, le CO2 que l'on expire, énumère Ben Matthews, professeur au département de zoologie à l'Université de la Colombie-Britannique. Et leur goût lorsqu'ils arrivent à se poser sur nous. Résultat, même si l'on parvient à perturber l'un de ces mécanismes, il y a des redondances qui font qu'ils peuvent quand même parvenir à nous piquer, souligne le chercheur. Malgré tout, il existe des solutions pour lutter contre eux à différentes échelles. Mais toutes ne sont pas efficaces ni bonnes pour la planète. Le fameux DEET. À l'échelle individuelle, la solution la plus courante est de s'asperger d'un produit contenant du DEET, une substance synthétique qui forme un film à la surface de la peau et qui repousse les moustiques. Au Canada, seuls les produits contenant au plus 30 % de DEET sont homologués et l'on recommande de ne pas dépasser 10 % pour les enfants. Ils sont considérés comme sûrs lorsqu'ils sont appliqués conformément aux instructions figurant sur l'étiquette, précise-t-on sur le site de Santé Canada. C'est un produit efficace, mais il se dégrade très lentement, souligne Jacques Brodeur, directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale à l'Université de Montréal. On commence à se rendre compte que nos sources d'eau, nos lacs, nos rivières en contiennent des quantités qui sont détectables. Ce n'est pas problématique pour le moment, mais ça s'accumule dans l'environnement. Quelle va être la situation dans 10 ou 15 ans? C'est difficile à dire. Les solutions de rechange au DEET. Il existe aussi des insectifuges à base d'icaridine ou picaridine. Une étude publiée en 2018 a montré qu'un produit en contenant 20 % était hautement toxique pour les larves de salamandre, un prédateur des larves de moustiques. D'autres études seraient cependant nécessaires pour mieux évaluer les risques de cet insectifuge pour l'environnement. Il est aussi tentant d'aller vers des produits naturels. Mais il faut en mettre beaucoup, très fréquemment. Et ça ne fonctionne pas aussi bien que le DEET, note Ben Matthews. Les produits à base d'huile essentielle d'eucalyptus citronné, par exemple, n'offrent généralement qu'une protection de 2 heures contre 6 heures pour ceux contenant 30 % de DEET. De nombreux autres dispositifs existent sur le marché. Chasse moustique de type thermacell, appareil à base d'ultrasons, spirale d'encens, bracelets. Ils n'ont pas d'effet négatif connu sur l'environnement, mais leur efficacité n'a pas été scientifiquement prouvée lorsqu'ils sont utilisés seuls, précise sur son site l'Institut national de santé publique du Québec. Des solutions vertes? Les solutions vertes recommandées par les experts sont souvent physiques plutôt que chimiques. L'idée est de faire barrière pour empêcher l'insecte de nous piquer. Ils conseillent, par exemple, de mettre des vêtements couvrants, amples, et avec un tissu épais pour éviter de se faire piquer au travers, d'utiliser une moustiquaire, ou encore un ventilateur suffisamment puissant pour empêcher les insectes de se poser sur la peau. Bien sûr, Toutes ces solutions ont leurs limites. En particulier, il reste recommandé d'utiliser un insectifuge lorsque l'on voyage dans une région où les moustiques sont susceptibles de transmettre une maladie. Jardinière vide, seau, bâche, bassin de récupération d'eau de pluie, brouette, piscine extérieure inutilisée, vieux pneus, kayak. Si l'on possède une cour ou un balcon, on peut aussi essayer d'enlever toute source d'eau stagnante pour empêcher les moustiques d'y pondre, explique Julia Mlinarek, entomologiste à l'Insectarium de Montréal. Mais il n'existe pas vraiment de solution miracle, souligne Jacques Brodeur. Le mieux est de combiner plusieurs approches pour que ce soit efficace. Vous écoutez « La lutte écologique contre les moustiques, mythe ou réalité », un texte de Chloé Bourquin, paru le 19 juillet 2024, dans la presse. Et à grande échelle. Environ 130 municipalités au Québec vont jusqu'à épandre dans leur plan d'eau du BTI lorsque leurs résidents sont trop gênés par les insectes piqueurs. Les scientifiques s'inquiètent toutefois des répercussions de ce larvicide biologique sur la biodiversité. D'autres villes font installer des pièges sur leur territoire. Il en existe de différents types. Certains attirent les insectes en émettant de la lumière et du CO2, d'autres sont des pièges électriques. Des projets pilotes ont, par exemple, été réalisés à Châteauguay, à Gatineau et à Saint-André-de-Kamouraska, avec de tels pièges. Les trois municipalités sont parvenues à capturer environ 1 million de moustiques chacune en un été. À Gatineau, cependant, près de 20% des insectes capturés n'étaient pas des moustiques. À plus grande échelle, des recherches sont en cours pour manipuler génétiquement des moustiques pour les rendre plus vulnérables à un insecticide, par exemple. Dans certaines régions, en relâchant des millions de moustiques mâles stériles, non piqueurs, il a été possible d'anéantir des populations entières de ces insectes. Mais ces solutions de grande envergure ne font pas l'unanimité. Pour les experts interrogés par la presse, elles devraient rester des exceptions et être utilisées uniquement dans des régions où les moustiques sont vecteurs de maladies. Au Canada, ils sont responsables de la transmission du virus du Nil occidental, mais les cas restent rares. On dénombre 47 cas sur tout le territoire pour l'année 2022. Il ne faut pas oublier que les moustiques restent un élément essentiel de la chaîne alimentaire et ce sont aussi des pollinisateurs, souligne Ben Matthews. Il faut toujours être extrêmement prudent lorsqu'on parle d'enlever une espèce d'un écosystème. Autre nouvelle écologique. Feu vert. Cop and pay. Ramasser des déchets. Prendre les transports en commun. Se déplacer à pied ou à vélo. Copenhague va offrir pendant près d'un mois des récompenses aux visiteurs et résidents qui réalisent des gestes en faveur de l'environnement. L'initiative, baptisée Cop and pay, consiste à transformer des actions vertes en monnaie pour des expériences culturelles, explique un communiqué de l'Office de tourisme de la ville. Les récompenses à la clé: un repas végétarien, un tour de kayak ou de bateau, une entrée au musée ou une promenade à vélo électrique. L'initiative pourrait être pérennisée si ses résultats sont concluants. Marc Fesneau a dit « Pour certaines industries, cette réutilisation des eaux permettra une économie de 15 à 80% en eau potable. » Marc Fesneau est ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Le gouvernement français a publié le 9 juillet deux textes assouplissant la réglementation pour permettre aux industries de l'alimentation de recycler leurs eaux usées. Les fabricants de yaourts, de saucisses ou de légumes surgelés, notamment, attendaient cette mesure avec impatience. Ils utilisent de grandes quantités d'eau pour laver leurs ingrédients et leurs installations. 37 degrés Celsius, un moyen simple et efficace de refroidir le gazon artificiel, consisterait à stocker de l'eau de pluie sous la pelouse et à la rafraîchir par capillarité. Une idée qui a fait ses preuves. Une équipe de chercheurs néerlandais a mené l'expérience à Amsterdam pendant une vague de chaleur en 2020 et a montré que la température à la surface d'un terrain recouvert de gazon artificiel classique a atteint 62,5 degrés Celsius contre 37 degrés Celsius pour ce gazon artificiel refroidi et 35,3 degrés Celsius pour le gazon naturel. Les chercheurs espèrent réduire ainsi les îlots de chaleur dans les villes. Les coûts d'installation pourraient cependant être jusqu'à deux fois plus élevés que ceux d'un gazon artificiel traditionnel. Source, Frontiers, 8 juillet 2024. C'était « La lutte écologique contre les moustiques, mythe ou réalité », un texte de Chloé Bourquin, paru le 19 juillet 2024 dans la presse.
Santé avant de jeter. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 18 juin 2024 dans La Presse. Une initiative pour inciter les consommateurs à ne pas se fier uniquement à la date de péremption de certains aliments voit le jour. De grands fabricants alimentaires conseillent à leurs clients de se fier à leur sens et à leur bon sens plutôt qu'à la date limite de fraîcheur sur certains produits en y affichant un nouveau pictogramme. Cette initiative permet de mettre le sujet au centre de la table et de questionner notre attitude. Ça permet de rappeler quelle est la définition de la date « meilleur avant », car elle n'est pas claire, lance Nicolas Dott, le responsable des relations publiques pour Too Good To Go au Canada. C'est cette application anti-gaspillage qui est derrière une nouvelle initiative qui veut rappeler aux consommateurs qu'en matière de fraîcheur, c'est lui qui a le dernier mot. En affichant une petite image sur certains aliments, on indique qu'au-delà de la date affichée sur l'emballage, si le produit sent frais et a l'air sain, il l'est probablement. L'initiative s'appelle « Observer ». Santé, goûter. Une quinzaine de marques canadiennes ont déjà dit oui, dont le groupe Bell, qui produit les fromages La Vache qui rit, et le géant du chocolat Barry Caillebeau. Cet affichage existe en Europe, où il a été lancé en 2019, et le petit logo est désormais présent dans 13 marchés où il se retrouve sur des produits de 500 marques. Le Canada est donc le 14e pays à se lancer dans ce partenariat avec l'application anti-gaspillage. L'aboutissement du projet aura pris une année, car le groupe a consulté les organismes réglementaires nationaux, dont l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Québec, pour leur présenter son image et sa démarche. Le lancement est fait mardi 18 juin 2024, mais les petits pictogrammes feront graduellement leur apparition sur les aliments. Ceux de grandes entreprises risquent de mettre un peu plus de temps avant d'ajouter l'image. Quel produit? Le pictogramme ne remplace évidemment pas les mentions de date limite de fraîcheur « meilleur avant », obligatoire au Canada, sur les produits dont la conservation est évaluée à 90 jours ou moins, à certaines exceptions près, dont les fruits et légumes. Il n'est évidemment pas destiné à la viande ou au poisson, précise Nicolas Dott, qui donne comme exemple certains condiments dont, à l'inverse, la durée de vie est très longue et va au-delà de la date proposée sur le paquet. La multinationale Too Good To Go élargit son champ d'action avec cette initiative, elle qui est spécialiste de la récupération d'invendus dans les commerces alimentaires par son application anti-gaspillage. La confusion qui règne autour des dates qui sont affichées sur les aliments est en partie responsable du gaspillage, note Nicolas Dott. Elles sont mal comprises, dit-il. On croit notamment que la mention « meilleur avant » sonne le glas pour un aliment qui ne doit pas être consommé au-delà de la date prescrite, alors qu'il s'agit d'un indicateur de fraîcheur et non de salubrité. À l'inverse, une date limite de conservation sur un aliment pour bébé indique la limite de consommation. Ça va encourager les consommateurs à utiliser leur sens avant de jeter un aliment, explique Nicolas Dott. Selon un sondage léger réalisé pour Too Good To Go, plus de 4 Québécois sur 10 déclarent notamment jeter des aliments dont la date meilleure avant est dépassée au moins une fois par semaine. C'était « Santé avant de jeter », un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 18 juin 2024 dans La Presse.
Plusieurs grands-parents mettent à mal leurs finances pour aider leur descendance. Un texte d'Alex Fontaine paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir. Quand vient le temps d'aider leurs enfants et leurs petits-enfants, les grands-parents canadiens se montrent très généreux. Peut-être même trop, plusieurs d'entre eux sacrifiant leur propre épargne pour soutenir financièrement leur descendance, apprend-on dans un sondage de la Banque royale du Canada, RBC, publié le mercredi 17 juillet 2024. Environ un répondant sur cinq, 21%, indique soutenir financièrement au moins un enfant adulte de 25 ans et plus pour un montant annuel moyen de 6 945 $. De plus, 30% des grands-parents sondés disent avoir versé de l'argent à leurs petits-enfants à hauteur de 4 002 $ en moyenne. Parmi les grands-parents donateurs, 54% révèlent avoir sacrifié leur propre épargne pour aider financièrement leur progéniture. Une proportion semblable, 52%, dit avoir apporté des changements importants à leurs habitudes de vie pour fournir ce soutien. Cette générosité n'est pas sans conséquence. Un tiers, 33% des répondants qui offrent de l'aide financière craignent de manquer d'argent pour payer leurs propres dépenses et pour continuer à aider leur marmaille, tandis qu'un cinquième, 21% d'entre eux, disent avoir contracté un emprunt pour apporter du soutien financier à leurs descendants. Il n'est pas rare pour les grands-parents d'aider financièrement les plus jeunes, mais on constate une énorme différence actuellement quant à la nature de ce soutien, puisqu'il est devenu une nécessité plutôt que l'expression d'une simple volonté d'aider, affirme Brigitte Felks, planificatrice financière à la RBC, dans un communiqué. En effet, 54% des grands-parents qui soutiennent leurs enfants adultes le font pour aider à payer des dépenses quotidiennes de subsistance, comme la nourriture et les vêtements. 7 personnes sur 10, 70%, reconnaissent que leurs enfants s'attendent à des contributions pour assumer ce type de dépenses. L'aide offerte aux petits-enfants sert quant à elle surtout à payer pour les dépenses liées aux études, 39%, bien que 30% des contributions soient destinées aux frais de subsistance. Retraite à risque. Il peut s'agir là d'un fardeau financier imprévu dans le budget des grands-parents. Plus la retraite approche, plus de pareils coûts inattendus ont une incidence sur l'épargne retraite de ces derniers. En outre, ces dépenses supplémentaires peuvent poser un risque immédiat pour ceux qui ont déjà pris leur retraite et qui vivent avec un revenu fixe, selon Mme Phelps. Elle se dit préoccupée par la proportion de grands-parents disant ignorer le montant d'argent qu'ils ont versé à leurs enfants, 43 % et petits-enfants, 34 % Seul un cinquième, 20 % des répondants ayant fait un don ont songé à l'incidence de cette aide sur leur plan de retraite et 37 % ont analysé leur situation financière pour déterminer le montant d'aide qu'ils peuvent offrir. Si vous payez les dépenses essentielles des plus jeunes membres de votre famille en fonction des besoins, il peut s'avérer difficile de comptabiliser tous les montants versés et de connaître leurs effets sur vos liquidités et votre épargne, explique Mme Phelps. Le sondage a été mené en ligne par la firme Angus Reid du 4 au 10 avril 2024 auprès de 1508 grands-parents canadiens de 55 ans et plus ayant des enfants d'au moins 25 ans. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de même taille serait de 2,5%, 19 fois sur 20. C'était « Plusieurs grands-parents mettent à mal leurs finances pour aider leur descendance », un texte d'Alex Fontaine paru le 17 juillet 2024 dans Le Devoir.
En quoi la réduction du nombre d'étudiants étrangers admis au Canada constitue un revirement historique? Un texte de Nadia Agamaoui, paru le 5 mars 2024 dans le journal La Source, en Colombie-Britannique. En décidant le 24 janvier 2024 de limiter la venue d'étudiants étrangers au Canada de 35 % au cours des deux prochaines années, cette mesure d'Ottawa semblait nécessaire, notamment pour atténuer la crise du logement qui sévit au pays. Mais certains observateurs se demandent s'il s'agit d'un revirement historique dans sa stratégie de recrutement et d'accueil des immigrants. Durant les dernières décennies, le Canada a considéré les étudiants étrangers hautement qualifiés et possédant au moins une des deux langues officielles comme de potentiels immigrants idéaux qui contribuerait à l'économie du pays sur le long terme. Leur venue était alors longtemps encouragée par les politiciens à Ottawa. En 2020, pendant la pandémie, le message de l'ancien ministre de l'Immigration, Marco Mendicino, était le suivant. « Notre message aux étudiants et diplômés étrangers est simple. Nous ne voulons pas seulement que vous fassiez vos études ici. » Nous voulons également que vous demeuriez ici. S'agit-il d'un revirement? Pourquoi alors un tel revirement par rapport aux étudiants étrangers? Dr Lisa Brunner, enseignante postdoctorale à l'Université de la Colombie-Britannique et qui a consacré sa thèse de doctorat sur le lien entre éducation supérieure et immigration, explique que ces dernières années, Ottawa aurait effectivement eu un changement de cœur par rapport aux étudiants étrangers, les percevant un peu moins comme immigrants idéaux. Il faut préciser que ce changement d'avis ne concerne pas les étudiants en deuxième et troisième cycle. Ottawa continue de considérer ceux-ci comme d'idéaux futurs résidents permanents, voire comme de potentiels citoyens aux contributions durables à l'économie. Quant aux étudiants de premier cycle, des études ont révélé que beaucoup d'entre eux ont éprouvé des difficultés à trouver un emploi dans leur domaine, sur un marché de travail de plus en plus compétitif. Mais aussi souvent discriminatoire, souligne Dr Brunner. Donc, ces étudiants étrangers, souvent en situation de précarité de par leur statut, se trouvent à faire des petits boulots de survie à leur sortie de l'université. Éducation supérieure et immigration, une relation problématique. Dans sa thèse de doctorat, Dr Brunner expose les aspects éthiques et problématiques d'une interconnexion entre la politique d'immigration fédérale et les étudiants étrangers. Elle explique que la politique d'immigration canadienne a longtemps utilisé l'éducation supérieure comme un terrain de recrutement de futurs immigrants, détournant ainsi le rôle et la mission première des institutions éducatives. Ces dernières sont devenues, d'office, des agents qui sélectionnent, admettent et forment des étudiants étrangers en vue d'assister à la transmutation de leur statut d'étudiant en statut d'immigrant. Ce chevauchement problématique entre éducation supérieure et immigration a débuté dans les années 70 et 80. En 1977, les étudiants étrangers ont commencé pour la première fois à payer des frais de scolarité différentiels. En 1996, les frais de scolarité ont été déréglementés, conférant ainsi aux universités le pouvoir de fixer eux-mêmes le montant des frais de scolarité pour les étudiants étrangers. Ainsi, au fil des décennies, les universités au Canada sont devenues trop dépendantes de l'argent des étudiants étrangers. À titre d'exemple, en 2021-2022, les frais de scolarité payés par les étudiants en provenance de l'étranger constituaient 27 % des revenus de fonctionnement de l'Université de la Colombie-Britannique, une part énorme. L'université prévoyait même une hausse de ce pourcentage en 2023-2024. Ottawa admet d'ailleurs ce problème éthique dans le communiqué officiel publié le mois dernier. Au cours des dernières décennies, l'intégrité du système des étudiants étrangers a été remise en cause. Certains établissements ont grandement augmenté leur nombre d'étudiants étrangers afin d'accroître leurs revenus, et de plus en plus de ces étudiants sont arrivés au Canada sans bénéficier du soutien nécessaire pour réussir. À ce stade, il est difficile de pouvoir anticiper toutes les ramifications de cette mesure, souligne Dr. Brunner. Néanmoins, il est certain que les budgets des institutions éducatives souffriraient lourdement si le gouvernement et les Canadiens ne prennent pas conscience de l'intérêt de verser de l'argent public dans l'éducation supérieure. C'était en quoi la réduction du nombre d'étudiants étrangers admis au Canada constitue un revirement historique, un texte de Nadia Agamaoui, paru le 5 mars 2024 dans le journal La Source en Colombie-Britannique.